I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 88 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, un récap de One Fight Night 10, premier événement de One Championship sur le sol américain, carte multidisciplinaire, MMA, grappling et Muay Thai. Belle petite carte qui a vraiment bien livré. On est super content de l'accueil qu'il y a eu pour les combattants du roster aux États-Unis. Et moi aussi, je suis content par rapport à l'engagement, à l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement, notamment sur Twitter. Et je remercie encore une fois les gens qui se sont engagés avec le thread que j'ai posté justement sur ces combats. Merci à vous. Et puis, bravo à ceux qui ont suivi aussi tard dans la soirée qui étaient juste en France. Mais je pense que ça valait le coup. Et rentrons directement dans le vif du sujet avec le premier combat qui m'intéressait sur la carte. Alors, on était, comme je vous le dis, dans un événement multidisciplinaire. Donc, on avait un super fight en grappling qui comptait au final un peu pour du beurre, hein, pas de ceinture, rien. Et les deux ne sont pas dans la même catégorie. On est vraiment là pour le fun. C'était Ardiar, Reignier de Reader face à Tai Ruotolo. Ruotolo, des frères Ruotolo, bien sûr, très connus, les deux petits génies, les deux frères génies du grappling, du no-gi. Et face à Tai, donc, Reignier de Reader qui, lui, n'en est pas à son premier super fight chez One. Il s'était battu contre André Galvao pour One X en 2022. Ça s'était terminé par un draw. Et puis, ben, Reignier de Reader qui est certes très bon en BJJ, mais qui n'est pas non plus le génie qui est Tai Ruotolo. Et puis, ça s'est un peu vu, au final, dans ce combat-là, parce qu'on a eu droit à beaucoup de luttes, hein, beaucoup de debout. Combat qui n'était vraiment pas des plus passionnants au niveau du grappling, parce que tout s'est passé debout. On n'a pas eu énormément d'action. Tai Ruotolo a essayé vraiment de pousser, mais étant donné que le gabarit de Reignier de Reader est vraiment plus gros que Tai Ruotolo, Reignier de Reader est plus middleweight, light heavyweight, tandis que Tai Ruotolo est plus welterweight. C'est quand même une sacrée différence, on l'a vu directement quand ils sont rentrés dans le ring. Et puis, Reignier de Reader était assez passif dans la défense de lutte, parce qu'il n'avait pas énormément de force à faire, hein. Il avait juste à poser ses frames et à défendre, et puis ça s'est bien passé pour lui. Mais c'est quand même Tai Ruotolo qui a été chercher, je trouve, le plus d'activité. Rien de fou à signaler pendant la première, voire les trois quarts, première partie des 10 minutes, hein. Je vous rappelle que vous pouvez scorer des points sous les règles de One en grappling avec des tentatives de soumission. Plus d'activité par contre côté Tai Ruotolo. Reignier de Reader s'est retrouvé limite au-dessus de son adversaire à un moment donné en fin de round, étant donné que Tai Ruotolo faisait un peu tout le travail. Il était forcément plus fatigué. Encore une fois, je vous le dis, le gabarit de son adversaire était vraiment plus gros. Mais c'est quand même Tai Ruotolo qui a réussi à se relever quand il était un peu en dessous, limite en dessous. Il a vraiment fait ça vite. Il a essayé aussi à un moment donné d'essayer de prendre le dos debout. Très vif, hein, sur ses tentatives de backtake. Mais bon, Reignier de Reader est quand même genre très vigilant. Sur la fin, hein, il y a eu une tentative vite fait de guillotine debout de la part de Tai Ruotolo. Et ça s'est terminé là-dessus. Victoire par décision pour Tai Ruotolo. Rien de fou pour ce combat. Je le relate parce que c'était quand même pour moi un super fight et ça pouvait être super intéressant. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment fou. De la lutte, c'est cool à voir. De la lutte par des gars qui font du BJJ, qui s'annulent l'un avec l'autre, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. On peut passer à la suite. Combat suivant entre l'ancien champ, le piton birman Aung La Hensang face à Fan Rong Chele, middleweight en MMA. Et combat qui m'intéressait, tout simplement parce qu'un minimum de respect pour la légende birmane, du moins dans son pays, mais aussi en Asie, et qui a quand même une belle petite coach chez les amateurs de One Championship, le piton birman Aung La Hensang, pour qui déjà je massacre son nom et je m'en excuse, mais ensuite qui était sur deux victoires back-to-back. Lui qui avait perdu ses ceintures contre The Reader. Et qui avait à cœur, je pense, d'avoir un petit run sympa plus vers la fin. Là, il s'en va vers ses 38 ans au mois de mai. Il est à deux victoires back-to-back. Et certes, la compétition chez les middleweight est vraiment pas folle, hein, à part The Reader. C'est pas la folie. Mais face à lui, Fan Rang, pardon, était quand même abordable, je trouve, pour le python birman, même si c'était lui qui avançait souvent sur l'athlète chinois. C'était beaucoup des one-shots avec le menton un petit peu en avant, des combinaisons pas mal timides, pas mal de touche-touche. On essayait de pas trop rester à squatter dans la poche de son adversaire, dans la distance de son adversaire. Mais malgré tout, Aung La Sang essaye de quand même pousser contre la grille. Ça reste assez timide le premier round. Même si je trouve qu'il y a un petit peu plus d'activité du côté du Birman, c'est pas super impressionnant non plus, mais quand même un peu plus d'envie, je trouve, de la part du Birman. Et puis malgré tout, on sent que ça peut pousser, notamment en fin de round, les gros coups qui peuvent faire très mal. Certes, ça ne connecte pas directement, mais dans la garde, ça commence à faire un petit peu peur à Fan Rong qui se fait un peu déséquilibré, hein. Vous avez beau garder une bonne coquille en haut, une garde bien haute, si on vous envoie des grosses droites ou alors des gros crochets avec une bonne rotation, il y a possibilité que ça vous fait un peu tanguer. Voilà, un petit peu chaud vers la fin pour Fan Rong, mais rien non plus de décisif. Donc premier round, je dirais, pour le Birman. On attaque le deuxième round. Fan Rang intelligemment réussit à aller chercher un takedown avec un double leg qu'il pousse contre la grille à Aung La Sang. Aung La Sang a géré un super beau move qui est, bon, ben, évidemment, quand vous prenez un takedown, si vous savez que vous allez au sol, il y a toujours la guillotine, hein, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Qui peut fonctionner indépendamment du côté sur lequel vous tombez. Hein. Si vous tombez sur votre côté fort et la tête à l'intérieur, vous pouvez y arriver. Si c'est à l'extérieur et sur votre côté pas fort, ça va être compliqué. Bah, lui, il est tombé du bon côté, sauf qu'il était contre la grille et que c'était compliqué. Du coup, il a switché sa guillotine pour un ninja choke. A vraiment serré fort. Hein. Fan Rang était vraiment la tête bloquée dans le lock de Aung La Hensang. Et il a terminé son ninja choke en début de deuxième, victoire par soumission du python birman. Trois victoires de suite pour l'ancien champ. Mais pour moi, ça méritait un title shot. Comme je vous l'ai dit, hein, sur Twitter, c'est que je pense que si ce gars va chercher cette troisième victoire de rang, et encore une fois, compte tenu de la pauvreté, pardon, de la qualité de la division des middleweight en MMA, hein, d'ailleurs, pas mal, malheureusement, de catégories en MMA, chez One souffre un peu de manque de compétition. Mais là, je pense que ça peut être mérité. Et il l'a vite fait mentionner dans son post-fight speech. C'est mérité, je pense, et bravo. Ça reste quand même, malgré tout, hein, même si le niveau n'était pas des plus fous, forcément sur les 10 dernières années en MMA ou avant ça chez One, ça reste quand même un beau petit parcours. Et puis félicitations à lui, et puis merci pour nous, parce que final, on s'est régalé avec ce Ninja Choke. Moi, je le voyais pas venir. Et puis voilà, super beau de la part de Aung La Hensang, cette finition. Beau Ninja Choke. Et on enchaîne avec Sage Northcutt, Super Sage, face à Ahmed Murtaba du Pakistan. 4 ans quasiment. 4 ans depuis ce chaos dévastateur qu'a reçu Sage Northcutt face à Cosmo Alexandre. Sage Northcutt qui avait fait, ben justement, il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans, le switch entre le UFC et One Championship. Et ça a été une catastrophe, hein, la première pour Sage Northcutt, parce qu'il s'est fait. Bah, déjà, ils l'ont lancé face à un kickboxer, ou ouais, un kickboxer qui faisait du MMA, quoi. Face à un kickboxer de genre 35 piges, avec énormément d'expérience, un knockout power des enfers, dans un ring, hein, pas dans une cage, hein, en MMA, mais dans un ring. Et ça a été très chaud, quoi, pour Sage Northcutt, parce que je pense que déjà le ring était absolument pas genre un bon plan pour lui, parce que vu son stance et vu comment il est assez mode karatéka taekwondo, aller avant arrière, il n'y a pas vraiment la place pour faire ça dans un ring. Il s'est fait fumer sur une grosse droite de Cosmo Alexandre dans la première minute. Tête éclatée, multiples fractures dans la face, besoin de plusieurs opérations, il me semble. Convalescence très longue, il était censé revenir en 2021. 2021, il pogne la Covid, une sale Covid qui le met vraiment mal, ça dure longtemps. Il est obligé de reporter son combat. Bref, Bref, un gros espoir pourri par un combat catastrophique et des soucis de santé. On peut que être content pour, ben, je pense, quelqu'un qui dévoue sa vie quand même aux arts martiaux, de le voir de retour après 4 ans. Et ça a failli être une catastrophe de plus pour Serge Northcutt parce que, bordel, je l'ai pas vu venir ce combat. Serge Northcutt s'est fait clairement, bon, bah, dans la première minute, de toute façon, le combat a duré 40 secondes. Dans les premières 10 secondes, il envoie 3 high kicks dans le range de Ahmed Murtaba. Et j'ai trouvé ça assez maladroit parce que, ben, il lui a laissé la possibilité de répondre, genre, vraiment rapidement parce que. Ces 3 kicks au bout du deuxième et du troisième, tu les vois venir. De toute façon, le troisième, clairement, genre, il avait déjà son téléphone bien mis dans sa garde, Ahmed, pour pouvoir défendre. Et puis sur le troisième, il a secoué la tête en lui disant, non, mais gars, arrête, qu'est-ce que tu fais à répéter la même chose over and over again? Et il lui a envoyé un jab bien piquant derrière parce que Sage ne respectait pas la distance. Il s'est pris un jab et il s'est fait knockdown sur un jab. Sur un jab. Donc, pour un mec qui s'est fait exploser la face, mais vraiment exploser littéralement la face à son dernier combat, se fait mettre knockdown sur un jab dans les 20 premières secondes du premier round, c'est chaud. Mais Sage Northcutt a eu des ressources. Et quelles ressources! Le mec s'est retrouvé sur son dos, aller chercher un Hashigarami, donc vraiment une position qui lui permet d'avoir une garde plus forte avec ses jambes autour d'une jambe de Ahmed Murtaba. Et a réussi à le sweep, à le faire tomber par rapport à ça. Bah, du coup, il a exposé, oui, pas explosé, mais peut-être il l'a explosé aussi, exposé son talon. Il a commencé à passer, bah, comme il faut le faire pour une clé de talon, pour un heel hook, à passer son avant-bras autour du talon de son adversaire, placer sa montre, hein, donc placer le talon au niveau du poignet, connecter les deux mains, commencer à tourner et bridger pour aller chercher un finish éclair. Est-ce que vous le voyez venir, ce heel hook de Serge Northcutt? Personne l'a vu venir. Bon, si quelqu'un a parié là-dessus, il s'est fait un paquet de fric, c'est clair. Mais vraiment, move de génie de la part de Sage. Bon, après, c'est pas un move de génie non plus, j'exagère, mais enfin, je le voyais absolument pas venir. C'était incroyable de voir cette réaction. Et le fait qu'il aille chercher le finish vraiment vite. Et puis, bon, bah, le tap de Ahmed qui est venu vraiment vite parce que. Là, il l'avait clairement. Hein, le heel hook était vraiment bien placé. C'était beau. Et puis bravo, Sage Northcutt, quoi. Le mec était chez lui. Enfin, hein, bon. Ouais, il était chez lui aux States, du moins. Et puis je pense qu'il a habité pour un bout au Colorado. Donc le public était vraiment fou par rapport à ça. Parce qu'il s'est fait knockdown. Et puis il a réussi à aller chercher ce beau Hashigarami. Et aller chercher ce sweep et cette soumission. Bravo, Super Sage. Impressionnant. Par contre, je peux pas m'empêcher, pardon, de penser à ce knockdown sur un jab, quoi. Il va vraiment falloir faire attention à travailler sur son côté nerveux, ses émotions, ses placements, et pas être trop rapide, enfin trop rapide, précipité, pardon, dans son approche du combat parce que ça a failli lui être fatal une fois de plus. Donc attention, Sage, j'espère qu'il va y avoir des rectifications à ce niveau-là. Bravo à lui et beau retour pour Sage Northcutt. Autre combat combien important sur cette carte, les vrais débuts de Roberto Soldic face à Sebastian Kadeshtam, le Suédois. Roberto Soldic, pardon, qui nous vient de Croatie. Ancien champ de chez KSW, effectivement, ça ne rigole pas. Qui a eu ses débuts complètement foirés par un groin shot, hein, un coup bas pour lequel il n'a pas pu se remettre dans ses débuts à One et ça a fini sur un no contest. Donc vraiment, grosse déception pour son premier combat qui n'a pas vraiment eu lieu au final. Donc ce combat-là, on l'attendait énormément. J'ai parlé brièvement de Sebastian Kadestam dans le thread que j'ai fait sur Twitter par rapport à ce combat-là. Et le mec a vraiment bourlingué chez One. Il en est à 6-4. Donc attention quand même au Suédois qui a de l'expérience, qui a de la bouteille. Et Roberto Soldic, lui, évidemment, j'en attendais beaucoup, comme je vous l'ai dit, de par son statut de double champ chez KSW. Premier round. Roberto Soldic, je découvre plus ou moins son style parce que je vous avoue que j'ai vu beaucoup de clips de sa part. Enfin, j'en ai vu pas mal sur les réseaux, un peu sur YouTube. Mais j'ai jamais vraiment prêté attention à son style de combat sur la longueur, sur un combat au complet. Je découvre un peu ça et puis je le trouve assez pas très mobile au final. Il reste beaucoup devant son adversaire. Alors certes, il met une sorte de pression en restant devant son adversaire, en essayant de prendre le centre de l'octagone et pousser doucement son adversaire, mais il essaye de sniper avec des gros one shot. Alors certes, ça fait peur, mais ça connecte pas forcément à 100%. Par contre, c'est clair que ça rock un peu Kade Stam. Et puis surtout en fin de round, on voit que Soldic a commencé à bien travailler au corps avec des droites qui vont aller chercher dans le ventre du Suédois. On voit que ça peut commencer à faire mal, mais le Suédois ne panique pas, garde une bonne garde, essaie de sortir sur les côtés. Hein. Alors il sort vite sur les côtés, Roberto Soldic ne va pas à la chasse. Hein, vu qu'il part sur des one shot et qu'il n'a pas forcément des combinaisons dans la poche et que c'est plus genre une grosse droite ou un gros crochet ou alors un gros coup au corps, Sebastian Cadestam s'en sort pour l'instant sur le premier round. Je pense que Roberto Soldic prend le premier, mais c'est vrai que ces one shot, ben, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus critique au niveau de l'attaque, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus constructif au niveau de la défense, parce que attaquer, il faut savoir se défendre, hein, soit en entrant et en sortant sur les côtés, faire des entrées-sorties, bien garder sa garde, ne pas mettre son menton en avant, et ça, mais Roberto Soldic est pas forcément très très discipliné là-dessus. Hein, on a vu que notamment sur les derniers coups au corps, puis quand il essaie d'aller chercher vraiment des gros assauts sur son adversaire, bah, il est un petit peu vulnérable. Puis ce qui devait arriver arriva dans le deuxième. Je pense que Kadestam a pas mal anticipé justement ce style de combat. Hein. Dans le premier, il était moins actif. Hein. Roberto Soldic prend clairement le premier round. Et Kadestam a été genre beaucoup moins actif. Mais je pense qu'il a été très bon au niveau de la lecture du combat de son adversaire, de son style de combat, de ses déplacements et puis de ses ouvertures aussi. Et quand Roberto Soldic allait encore une fois, parce que comme je vous l'ai dit, sur la fin du premier, il allait chercher beaucoup le corps. Sur le début du deuxième, il commence pareil. Et puis à un moment donné, ben, Kadestam a bien timé un counter, puisque vraiment, Roberto Soldic est très proche quand il va chercher ses coups au corps, avec le menton pas mal en avant. Et Sebastian Kadestam a répondu avec un magnifique counter plein coude. Hein, tellement genre Roberto Soldic était proche. Je pense qu'il a préféré le ramener le plus proche possible de sa zone de danger pour pouvoir passer justement ce coude plutôt que de passer genre ben, une droite ou un jab ou alors un genou. Ce coude qui arrivait pleine face a clairement sonné le glas de Roberto Soldic et c'était le début de la fin pour le Croate. Le Croate s'est retombé contre le cul et s'est retrouvé debout contre la grille. Ben, Sebastian Kadestam, lui, justement, a été bah, agressif à ce moment-là, mais a été patient et a gardé une bonne distance par rapport à son adversaire. Il avait les bras un peu plus longs, je pense. Il avait un peu plus de range. Du coup, il pouvait aller chercher genre des one-two faciles, puisque Roberto Soldic était très sonné après ce coude. Et il a réussi à le connecter avec des jabs, un one-two. Roberto Soldic se retrouve genre vraiment pas bien, en sale posture. Et puis, finalement, il arrive à passer genre cette droite pleine mâchoire qui envoie le Croate au sol. Je ne sais plus si c'était dans la mâchoire ou dans la tempe, mais en tout cas, bref, c'est des assauts cumulés, mais c'était, comme je vous dis, c'est le coude qui a tout commencé, qui l'a vraiment, vraiment mis mal. Et Kadestam a fini contre la grille. L'arbitre vient sonner le TKO. C'est la fin pour le Croate. Big, big, big upset. Énorme upset chez les welter au MMA. Roberto Soldic, qui a clairement, moi je le voyais comme ça, qui c'était une voie pavée chez les welter en MMA pour pouvoir aller chercher une ceinture. Et pourquoi pas une autre derrière. C'est comme ça que je le voyais. Je dis pas que j'ai raison ou quoi que ce soit, mais genre, je vais être honnête, c'est comme ça que je le voyais et c'est un gros upset pour moi. Bravo à Kadestam. Encore une fois, je voulais absolument pas lui manquer de reconnaissance. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est son record chez One est à 6-4 quand même. C'est pas le plus gros, mais c'est quand même genre respect. Le gars a bourlingué et puis a gagné des beaux KO, etc. Mais Roberto Soldic, on attendait beaucoup de lui. Et puis gros upset. Gros upset. Et puis cette carte continue de livrer comme il faut. Merci aux combattants. Ça déroule bien. On doit revoir Roberto Soldic et il doit vraiment, vraiment se refaire parce que c'est un gros investissement. Peut-être pas forcément financier. Mais en tout cas, au niveau de la place qu'il prend dans le roster MMA et la place qu'il devrait prendre dans le roster MMA, pour l'instant, c'est un début catastrophique pour Soldic. Et les combats s'enchaînent, mais la qualité ne baisse pas. On passe à Stemp Vertex face à Alize Anderson. Le retour en MMA de Stemp Vertex, elle qui s'est battue dernièrement face à Supergirl avec une victoire à la décision partagée, hein, assez mitigée d'ailleurs, cette victoire, il me semblait. Malgré tout, on passe au MMA. Dernier combat que j'avais vu de Stemp Vertex en MMA, c'était contre Angela Lee. Angela Lee qui est très 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 douée en MMA, avec un MMA très complet et une grappleuse de haut talent. Stemp Vertex s'était fait choquer dans le deuxième round. C'était dur pour elle, elle l'avait mal pris, mais elle rebondit toujours bien. Je vous rappelle que 25 ans, hein, Stemp Vertex, déjà une star en Asie, du moins en Thaïlande, mais en Asie je pense aussi. Et une star mondiale à en devenir, je pense. C'est sûr qu'elle profite des réseaux et du TikTok, etc. pour faire grossir sa marque, mais pourquoi pas, elle a raison, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'elle ira chercher de la reconnaissance, du flouze, et pourquoi pas une autre organisation. En tout cas, Stemp Vertex, bien connue, et on avait hâte de la voir se battre en MMA, et c'était pas mal ce combat, c'était assez un peu timide dans les premières minutes. Ce que je trouvais très bête de la part de Alize Anderson, c'est qu'elle allait chercher, Vertex dans la poche. Et ça se passait pas super bien pour elle, hein. Forcément, Stemp connecte plus et essaie d'envoyer directement des gros coudes. Donc du coup, Alize Anderson est un petit peu obligée de reculer et d'essayer de passer un game plan B, hein. Je ne sais pas si c'était son game plan A d'aller striker avec Stemp Vertex, mais c'est complètement con. Du coup, elle a essayé de passer un judo throw, mais Stemp Vertex a re-sweepé, hein, elle s'est retrouvée au sol, mais elle a re-sweepé directement derrière. Ça, c'est vraiment un bon réflexe de quelqu'un qui a fait récemment, on va dire plus ou moins récemment, la transition en MMA, même si elle a commencé jeune, hein, de toute façon. Mais elle n'a pas commencé aussi jeune que le Thaï. En tout cas, c'est clair que ça se voit, elle a des beaux réflexes de MMA, des beaux réflexes de grappling. Pour repasser le sweep au-dessus de son adversaire, s'est retrouvée au-dessus de son adversaire. Alize Anderson essaie de placer un espèce de faux triangle, mais elle n'avait pas de bras, elle avait juste la tête. Ça ne servait strictement à rien. Stemp Vertex n'a pas paniqué, resté au-dessus et doucement essayé de sortir sa tête, ce qu'elle a très très bien fait. Donc c'est pas mal pour Stemp, mais par exemple quand ils se sont relevés, j'ai trouvé que la cardio de Stemp n'était pas des plus folles en MMA. Vous savez que forcément tu peux avoir une cardio de fou, je sais pas, en course par exemple, ou alors en striking, hein, si tu fais du Muay Thai et que tu fais énormément de striking, tu peux faire des rounds et des rounds et des rounds et des rounds de pad. Des rounds de pad et des 10 et des 12 rounds de pad, mais au final, le MMA, quand tu travailles au sol pendant une ou deux minutes et que tu te relèves, ta cardio en prend un coup sévère. Et là, j'ai trouvé que Stemp Vertex avait peut-être une petite amélioration à faire là-dessus, c'est justement sur l'aspect de la cardio. Je l'ai trouvé un peu moins en forme que sur ses combats de taille. Ça ne change rien pour elle, parce que c'est aussi dans la tête. Et dans la tête, ça se passe très bien pour Stemp Vertex. Surtout quand son adversaire va aller jouer dans son propre jeu. Alors, Alize Anderson a essayé de shooter plusieurs takedowns, et Stemp Vertex, comme je vous le dis, a les bons réflexes du grappleur, du MMA, c'est d'aller chercher les underhooks pour pouvoir bloquer les takedowns de son adversaire. Quand elle se retrouve contre la grille, elle vient bien chercher les underhooks pour bien gêner son adversaire. Et petit à petit, notamment dans le deuxième round, cette lutte contre la cage se transforme en clinch. Et aller clincher contre une Thaï, une championne Thaï, celle qui a commencé le Thaï sûrement toute petite et qui en a fait toute sa vie, et qui est forte dans cette discipline, aller clincher avec elle, c'est complètement con. Et encore une fois, hein, un game plan, bon c'est dur après je pense contre Stemp Vertex, mais un game plan pour Alize Anderson qui était à la rue. Hein, complètement, parce que changement de gameplay plusieurs fois peut-être, mais à chaque fois c'était pas la bonne décision. Aller clincher avec Stemp, ça n'a pas été bon. Quand Stemp cassait le clinch derrière, elle essayait de faire mal, et puis à un moment donné, elle a fait ce qu'elle sait le mieux le faire, c'est à savoir kicker comme une maniaque. Un super beau middle kick en sortie de clinch, qui est arrivé, je ne sais pas si c'est arrivé sur le foie, mais en tout cas, ça arrivait vraiment plein ventre de son adversaire, et peut-être ça a pris le foie, mais en tout cas, ça s'est retrouvé directement au sol, et c'était terminé, quoi. Vraiment KO par body kick, et le bruit que ce kick a fait, désolé pour vos oreilles, c'était la même chose. C'était vraiment impressionnant en live d'entendre ce coup. Ouais, son adversaire directement plié en deux, Alice Anderson avait perdu directement, c'était terminé. Herb Dean est intervenu le moment où il fallait. Bravo à Stem Fairtex. Une autre victoire dans la poche en MMA pour l'ancienne championne Atomweight. Quelle sera la suite? Quelle sera la suite pour Fairtex? Parce que c'est un peu compliqué avec Angela Lee. On ne sait pas quand Angela Lee va se rebattre. Hein. Je vous rappelle qu'elle a perdu sa sœur en fin d'année 2022. Vraiment une tragédie pour la famille Lee qui a fermé son gym à Hawaï. Christian Lee, lui, est revenu, mais on ne sait pas trop pour Victoria. Elle qui s'est battue récemment contre Jiang Jingnan en 2022, mais bon, les temps ont changé depuis ce temps-là, donc la catégorie, on ne sait pas trop ce qui se passe chez la Atomweight, chez One. Par contre, Stam Fairtex, comme je vous le dis, hein, elle, une star mondiale en devenir, je pense, peut-être j'exagère, c'est sûrement Chatry qui m'a donné le virus à force d'exagérer tout ce dont tout y parle en général. Et peut-être j'exagère un peu sur Stamp. Peut-être elle n'a pas forcément le niveau de fou en MMA, mais je vous rappelle qu'elle a 25 ans, hein, elle a énormément de progrès à faire, elle a une grosse marge de progression. Et puis je pense qu'on peut la voir de mieux en mieux, hein. Ceinture violette, pardon, en jiu-jitsu. Je pense qu'elle devrait travailler un peu plus son grappling, sa cardio là-dessus. Mais après, elle s'entraîne en Thaïlande. Et en Thaïlande, on sait très bien que maintenant, c'est un peu une nouvelle mec, hein, au niveau de l'entraînement. Vous avez des champions dans toutes les disciplines là-bas maintenant, hein, en jiu-jitsu, en lutte, en kickboxing, en muay thai. Voilà, il manque plus que des boxeurs, quoi. Et sinon, ça se trouve, il y en a, je le sais pas. Mais bel avenir, en tout cas pour Stem, c'est cool. Ils ont une belle star chez One Championship. Bravo à Stem Fairtex. Magnifique danse d'intro, comme d'habitude. Et on enchaîne avec la première défense de ceinture de la soirée. Mikey Musumeci face à Osama Al-Marwai. Première ceinture belt du Yémen face à Mikey Musumeci. Et puis j'avais étudié un petit peu le CV de Osama Al-Marwai qui se bat chez qui s'entraîne pardon dans la team Atos en BJJ notamment avec les frères Orwotolo. Beau petit CV au niveau des victoires aussi, hein, en Nogi comme en Gi dans les World Championships Nogi pour Osama Al-Marwai. Et puis face à lui évidemment, Mikey Musumeci, qu'on ne présente plus, hein, le champion flyweight du grappling de chez One Championship. Un génie, un petit génie, 25 ans, voilà, c'est clairement la nouvelle génération très moderne du Jiu-Jitsu avec des attaques de leg lock constantes, super précises, deadly, et puis beaucoup de vivacité. Et même si je voyais un petit peu de compétition dans ce combat-là, ben, au final, à la fin de la journée, il n'y en a pas vraiment eu, parce que, bon, ça, c'est clair, ça peut saouler des gens de voir des grappleurs poulet garde, encore une fois, mais c'est un peu le délire de Mikey, hein. Au final, c'est de genre absolument aller chercher ce leg lock. Ça lui est arrivé plusieurs fois dans des combats auparavant, que j'ai vu notamment chez One, où il veut absolument aller chercher le leg lock, du coup, il préfère se poser sur son cul, aller chercher un shigarami ou autre, et puis commencer à travailler l'attaque du talon, exposer le talon de son adversaire pour pouvoir, pouvoir le faire taper, tout simplement. Et ça a été, genre, on va dire, 5 minutes au moins d'attaque, sans aucune pause au niveau des leg locks pour Mikey Musumeci. Osama Al-Marwai n'a pu faire que défendre. Hein. Je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, Mikey avait vraiment le talon assez haut et assez évident de son adversaire. Il a tiré dessus, on le voit vraiment tirer comme un sangouin. Et je pense que ça a dû être douloureux pour Al-Marwai, mais il n'a pas bronché. Il a essayé de backstep pour passer au-dessus de son adversaire, mais je crois que Mikey est pas né de la dernière pluie, il le sait. Il sait comment bloquer, justement, cette réponse du Yéménite. Et ça a été très dur pour Osama Al-Marwai. Mais ce qui m'a plu aussi de la part de Mikey Musumeci, c'est que, à un moment donné, il voyait que son adversaire tapait pas. Ça arrivait la dernière fois avec son dernier adversaire chez One, c'est qu'il lui a cassé le genou dans tous les sens, hein, les deux ligaments, le ménisque, tout. Sa jambe est bonne à être amputée, limite, quoi. Mais voilà, il a continué pareil, mais au final, qu'est-ce que tu fais contre un adversaire qui tape jamais? Au final, il a continué. Cette fois-ci, il a changé un petit peu de game plan, il a réussi à se lever, passer la garde de son adversaire, et son adversaire était contre la grille, hein. Et faire un garde passe face à ton adversaire qui est contre la grille, c'est pas du tout la même chose que quand t'es au milieu du mat non plus. C'est vraiment une game différente. Il l'a vraiment super bien fait. Et quand son adversaire a essayé de rouler un petit peu pour peut-être passer en tortue, ben, ou pas, ben Mickey a réussi à prendre son dos. C'était super beau. Et puis aller chercher le rear naked choke. Walk in the park, encore une fois, pour Mikey, je me demande qui peut battre ce kid, quoi. C'est incroyable à quel point il maîtrise ses adversaires. Bon, avant, c'était des gars du Sambo, donc ça m'a un peu saoulé chez One, où à chaque fois, ils mettent des grappleurs, enfin des gars du BJJ de haute volée, les meilleurs au monde, hein, les Ruotolo ou alors les Musumeci, face à des anciens champions de Sambo. Et puis, on sait que les gars du Sambo en Jiu-Jitsu, ça ne marche pas contre les meilleurs en Jiu-Jitsu. Ça marche juste pas. En MMA, oui, ils cassent tout, mais en Jiu-Jitsu, ça ne marche pas à date face aux meilleurs grappleurs modernes. Tout simplement, ça ne marche pas. Mais même quand on met quelqu'un qui est de la cabine de Osama Al-Marwai face à Mikey, ça marche pas non plus. Et puis Mikey est absolument pas dans la même catégorie que les frères Ruotolo qui sont plus lightweight et welterweight. Donc ça va être chaud. Je pense que Mikey a un bel avenir devant lui, en tout cas dans cette organisation. Victoire facile pour le kid américain. Je l'appelle le kid comme Dana White, il a 25 ans, c'est pas du tout un kid, mais c'est un monstre et il a une tête de kid. Bravo Mikey Musumeci. Autre défense de ceinture sur cette belle carte qui est One Fight Night 10, c'est Roteng face à Edgar Tabarez. Alors, carton jaune, déjà, puisque One donne des cartons aussi pendant ses combats, donc moi je vais en donner un. Je vais donner un carton jaune à One pour ce match-up. Parce que tout le monde était un peu étonné de ce match-up, et Edgar Tabarez lui-même, le Mexicain, était étonné. Tout Twitter était étonné quand l'annonce du combat est tombée. On voulait Roteng face à Superleg, ça a été annulé pour. Je crois que Roteng n'avait pas fait le poids. Et dans les déclarations qui ont suivi, Roteng disait: ouais, je préfère aller affronter quelqu'un d'autre que un compatriote thaï. Je veux que tous les thaïs soient champions. Ça peut être considéré comme deux quais quand même, hein, Superleg. Mais bref, tous les combats de Roteng, je pense, sont quand même un événement, hein, au niveau du thaï et du pied-point en général. Et en tant que fan, on sait que ça va livrer et que ça va envoyer du lourd, et on est content de revoir Roteng. Mais, enfin, je préfère voir une grosse guerre comme entre Roteng et Haggerty, qui est d'ailleurs le nouveau champion chez les flyweight, chez les bantamweight, pardon, vu que c'est Roteng le champion flyweight. Mais je préfère voir des guerres comme ça que des dominations face à Edgar Tabarez. Alors certes, Edgar Tabarez a su se défendre parce que bon, on est quand même dans du pied-point, il y a moins de composantes que du MMA. Et c'est sûr que sur le premier round, il y avait quand même un peu de, pas de compétition, mais des échanges, hein. Mais bon, on voyait quand même la supériorité au niveau de la force et au niveau des techniques de base chez Roteng. Edgar Tabarez a essayé d'envoyer quelques high kicks parce que on sait que Roteng est un petit peu genre foufou au niveau de la garde, des fois avec une garde un peu poreuse, hein. On sait qu'il sait en prendre plein sa face et il en joue. D'ailleurs, il en joue le fait qu'il a un menton de fou et qu'il n'est pas impossible d'être de le knockout. Si, c'est possible, mais où je veux en venir, c'est qu'il se sent surpuissant dans la cage et il l'est. Tout simplement, Edgar Tabarez, lui, a beau envoyer quelques high kicks, Roteng ne morfle pas. Alors, Edgar Tabarez, pour essayer de repousser les assauts, parce que quand Roteng commence à s'approcher, quand vous l'avez dans la poche, lui, ses enchaînements, c'est très dangereux. Et puis, les coudes qu'il envoie sont deadly. Ça peut faire très, très mal. Alors, ce que fait Edgar Tabarez, c'est qu'il commence à tipper, hein, envoyer du tip avant, arrière, mais aussi quelques middle kicks pour essayer de repousser. Le problème, c'est que Roteng a commencé à les catcher et a envoyé un coup au corps juste derrière, régulièrement. Et ça fait super mal. C'est genre, quand c'est quelque chose que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes, ça casse ton cardio. Et puis il a vraiment brisé Edgar Tabarez dans, je veux dire, la deuxième moitié du premier round et début du deuxième. Où il a continué à attraper les types de Edgar Tabarez et lui envoyer une grosse droite au corps, un gros coup au corps. Et ça, je pense que ça a fait très mal, très très mal à Tabarez, qui ça se voit, il n'avait plus vraiment de solution face à Roteng, et puis il a commencé à essayer d'envoyer des spinning elbows, etc. Et puis justement, dans le deuxième, ce dernier spinning elbow lui a été fatal, hein. Encore une fois, ça part d'un kick Roteng catch, Edgar Tabárez veut se défendre avec un spinning elbow, Roteng évite et puis dans la réponse renvoie un coude qui envoie Tabárez au sol et c'est terminé. Alors pourquoi le carton jaune? Mais encore une fois, c'est surtout sur une carte comme ça. La plus grosse carte de One aux États-Unis, la seule, pardon, mais l'ouverture. Donc vraiment une grosse carte pour One. Puis présenter Roteng au public américain sur son sol, je parle bien sûr, pardon. Pour moi, c'est important de le mettre face à un adversaire qui était un peu plus à sa hauteur. Parce que Edgar n'était pas à sa hauteur et puis Roteng n'était absolument pas à la portée de Edgar. Donc pour ça, c'était dur. Je pense pas que c'était pas le bon match-up, clairement. Ça ne l'était pas. Et je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Imaginez, on aurait eu Superleg versus Roteng sur place, quoi. Les Américains auraient été fous de voir, parce qu'ils ont vraiment bien réagi au combat de Roteng. Les gens ont adoré. Roteng a pris son bain de foule derrière. Les gens étaient à fond. Et ça fait plaisir de voir que le Thaï, bon, encore une fois, c'est du Muay Thaï, mais c'est plus du kickboxing avec des petits gants, quoi, hein, vu comment ça sépare très vite dans le clinch, pardon. D'ailleurs, je sais plus quel combat c'était, mais genre même c'était en MMA où clairement Herb Dean séparait souvent, mais très souvent. Et puis ça, je pense que c'est clairement une demande de l'organisation parce que Herb Dean sépare jamais comme ça dans le UFC ou ailleurs. En tout cas, je reviens à Roteng face à Tabárez, match-up qui était pas digne de ce nom. Pas digne de ce nom pour un Muay Thai World Championship. Clairement pas, parce que quand on voit le roster pardon, de fou que One Championship a en pied-point, et ils viennent de signer Takeru en plus, hein, donc attends, ça s'arrête plus. Je pense que ça méritait mieux, il y avait moyen de faire mieux. Peut-être Roteng voulait quelque chose de plus facile aux States. Ah, voilà, j'ai pas envie de partir trop dans les polémiques, mais c'est bête que ce match-up là ait eu lieu. On est content de voir Roteng, on est content de voir du beau Muay Thai, c'était cool, mais ça méritait mieux. Bravo Roteng et bravo Edgar Tabárez d'avoir pris le combat. Honnêtement, je ne sais même pas si on va le revoir régulièrement chez One. Peut-être ça va être un journeyman qui va en gagner une, perdre une. Voilà, c'était pas à sa portée. Clairement pas. Mais bravo Roteng, pareil. Ah oui, j'ai failli oublier. Si je donne un carton jaune aussi, c'est que bon, il y a eu des bonus qui ont été distribués par Chatri, évidemment. Hein. Chatri qui a eu son moment Oprah. You get a bonus. 50K for you. 50K, 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 50K. Let's fucking go. Chatri, quoi. Et puis, évidemment, Chatri qui essaie de pumper. Qui a réussi à pumper. Je me rappelle plus du nom de l'arène à Denver, Colorado. Chatri, voilà, quoi. Chatri. Semaine catastrophique de Chatri au niveau de la communication, notamment avec l'affaire Ngannou. Je n'ai pas envie d'en parler. J'ai envie de parler des combats. Je le fais. Mais voilà. Et Chatri qui fait du Chatri. On a tous... Il y a toujours un moment Chatri quand Chatri vient, de toute façon. Et puis là, il a donné un bonus de, attendez, pas 50 000 hein, à Roteng, 100 fucking 1000 dollars. 100 000. 100 000 dollars de bonus à Roteng. Alors ça, c'est clairement le cadeau du copain au copain, quoi. C'est le petit préféré du prof qui se ramasse des bons points tout le temps, celui qui est au premier rang. Enfin bref, c'est puant, je trouve, parce que... Oui, Roteng l'a battu et puis il aurait pu lui donner un bonus de 50K déjà, ça aurait été surtout face à son adversaire, pas forcément le plus mérité, mais là, de double down et de mettre un 100K, non, c'est ça fait pas de sens et c'est de la communication encore une fois très bancale et malvenue, pardon. Donc, pareil, c'est pour ça aussi, petit carton jaune. Mais encore une fois, un combat de Roteng reste un combat de Roteng. Et puis on le reverra et on le re-regardera. Parce que c'est Roteng. Mais est-ce qu'on aura Roteng face à Superlek? Évidemment, Roteng veut Takeru. Je sais pas. Et puis, enfin bref, j'allais reparler de Chatri. Mais je vais arrêter parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et j'ai envie de continuer à parler des combattants qui font vivre le spectacle. Merci à Roteng, bravo Edgar d'avoir accepté le combat. On peut passer au main event. DJ Demetrius Johnson, Mighty Mouse face à Adriano Moraes. Le troisième combat de la trilogie entre les deux. Premier combat gagné par le Brésilien, deuxième combat gagné par l'Américain. Et troisième combat qui headline One Fight Night 10 à Denver, Colorado. Eh ben, beau petit combat quand même, très 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 tactique. J'ai pas forcément vu le combat de la façon dont tout le monde l'a vu, dans le sens où je voyais Moraes au-dessus, du moins dans les premiers rounds. Clairement, plus gros. Déjà, ça on l'avait vu, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on le revoit les deux dans l'octogone et puis dans le face-à-face aussi, c'est quand même impressionnant de voir DJ avoir les couilles de passer quand même à 135, parce que même pour un flyweight, DJ est vraiment pas grand, quoi. Il est tout petit, il est pas épais. Et Moraes est vraiment plus grand, c'est plus un 135, voire un 145 Moraes. Et puis clairement, la différence de taille se faisait voir. Pas seulement au niveau du face-off, ça se voyait dans la cage, et au niveau de la force aussi. Même si c'est un super bon lutteur, DJ a eu toute la misère du monde, du moins dans les deux, voire trois, je dirais deux, premier round, de contrer la lutte de Moraes qui poussait beaucoup contre la cage et qui dominait DJ dans ces échanges-là. Alors certes, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais dans la poche, DJ avait du mal aussi, quoi. Je trouve que c'était dur pour l'Américain. Moraes avait plus de range, il gérait mieux dans les deux premiers rounds au niveau des assauts. DJ avait du mal, hein, mais même il se faisait catcher ses kicks, il me semble, beaucoup dans le deuxième round, ça marchait pas pour lui. Et puis encore une fois, vu que Moraes est beaucoup plus grand, tu te fais catcher un kick par un gars qui est plus grand que toi et t'as des plus petites jambes, tu te retrouves à sautiller, ça devient compliqué, puis l'autre peut enchaîner avec la lutte, te repousser contre la cage, etc., etc. C'était mal parti, je trouve, pour DJ, mais DJ est un monstre de cardio. Et le vent a tourné quand Moraes a commencé à faiblir. Il est devenu moins dynamique, moins de force, moins de cardio, moins entreprenant. Et même si il allait chercher beaucoup de luttes, TJ est passé en mode vraiment plus actif dans la lutte. Alors ça, on l'a vraiment beaucoup vu sur les rounds 4 et 5, où dans les sessions de clinch, TJ mangeait clairement Adriano Moraes. C'est-à-dire qu'Adriano Moraes n'avait plus vraiment le jus pour aller striker et puis enchaîner des petites combinaisons dans le pocket. Ou alors même essayer de mettre son adversaire au sol. Il a essayé plusieurs takedowns, ça n'a pas marché. TJ, bravo à lui pour ça, parce que, comme je vous le dis, l'autre est vraiment plus gros. Même si il est très bon en lutte et il est très bon en grappling de Mighty Mouse, ça n'empêche que face à un gros adversaire comme ça, qui est black belt en jiu-jitsu, etc., ça prend beaucoup de talent, beaucoup de force et beaucoup d'abnégation pour ne pas se faire mettre au sol. Et là-dessus, TJ a été très très bon et un mental de champion, attitude de champion, talent de champion. Tout 100% champion. Et dans le 3, et dans le 4 et dans le 5, comme je vous le dis, la bataille du clinch a été une punition pour Adriano Moraes, où TJ a envoyé des super bons genoux. Après, je pense que son clinch s'est beaucoup amélioré pendant la préparation de son combat face à Roteng, où il a fait un round de Muay Thai, mais il s'était préparé pour plusieurs rounds de Muay Thai, et il s'est préparé pour une guerre au Muay Thai face à Roteng, qui est un guerrier du Muay Thai. Je pense que ça l'a pas mal amélioré niveau clinch, ça l'a beaucoup aidé. Et dans le 4 et le 5, là, dans les Championship Rounds, c'est là qu'on a vu le vrai champion vraiment prendre le dessus sur Moraes. Les échanges de genoux, il y a eu notamment, et puis les coudes aussi, hein, le fait que tu te retrouves dans un tight clinch et tu essayes de passer genre ton coude au-dessus de l'épaule de ton adversaire pour aller lui placer ce coude qui fait mal, ça, elle en a envoyé beaucoup et Moraes a mangé. Pareil sur les coups de genoux, hein, TJ a varié entre genre dans le bas du ventre, plus en haut dans le ventre, et même un flying knee dans le clinch qui arrivait sur la tête de Moraes, ça a failli être chaud chaud pour Adriano Moraes. Et justement, c'est monté en puissance sur la fin de ce combat pour TJ. Et puis Moraes, lui, est allé en déclinaison, pardon. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il est tombé vers le bas. Plus beaucoup de jus, plus beaucoup de cardio, plus beaucoup d'activité. TJ prendra le combat à la décision unanime face au juge. Moi, comme je vous le dis, je voyais au moins les deux premiers pour Moraes, et puis je voyais rentrer dans le quatrième, je voyais la nécessité pour DJ de peut-être devoir finir pour gagner. Mais bon, apparemment, il a pris le troisième aussi. Donc bravo DJ, hein. Comme je vous dis, genre quel mental de champion pour donner cette leçon de clinch à Moraes qui a pas adapté son game plan par rapport à la réponse de DJ dans les derniers rounds. DJ a vraiment su, lui, adapter son gameplay parce qu'il voyait qu'il allait pas s'en sortir dans cette lutte et que Moraes allait continuer. Ben, il a commencé à devenir violent dans le clinch et puis ça a payé. Ça a vraiment payé. Je trouve aussi que je l'ai trouvé plus entreprenant au niveau d'avancer sur son adversaire, TJ, mais même s'il avançait, Moraes répondait par soit prendre le clinch, soit essayer d'aller en lutte. Et c'est dans ces moments-là que DJ a été beaucoup plus créatif et beaucoup plus agressif et beaucoup plus entreprenant. Et Moraes a perdu clairement là-dessus. Et DJ nous a impressionnés parce que bordel. Le respect qu'il faut avoir pour ce gars, et puis l'amour qu'il a eu de la part des fans, ça fait vraiment plaisir parce que il a tout fait chez les Flyweight. Tout fait chez les Flyweight. Il s'est battu contre tout le monde, contre les meilleurs Flyweight en MMA au UFC. Et après, bon, il y a eu cet échange Ben Askren-Demetrius Johnson. Quel échange d'ailleurs, hein. Je vous laisse deviner qui a perdu au change dans cette histoire-là. Mais TJ est parti à 135, quoi. Et comme je vous le dis, c'est vraiment un vrai 125. TJ, il est vraiment petit et pas gros. Et puis là, le fait de se battre contre des gars plus grands et de gagner cette trilogie et puis de prendre cette victoire après ces difficultés des premiers rounds, chapeau, le champion, le GOAT. Le GOAT. Un GOAT? Est-ce qu'il y a des GOATs? J'en sais rien, mais on peut l'appeler GOAT. Il n'y a absolument aucune insulte à tous les autres à dire ça. C'est un monstre, TJ. Bordel, on kiffe quoi. Si tu kiffes le MMA, tu kiffes Demetrius Johnson. Tu peux le regarder se battre, tu prends plaisir à le voir se battre. C'est un vrai champion, bordel, que c'est beau cette carrière pour Demetrius Johnson. Et quel bel événement qu'on a eu pour ce One Fight Night 10. Je suis content parce que j'ai vraiment poussé cet event, hein, genre un peu sur les réseaux. J'ai été vocal par rapport à ça. Et puis j'ai vu que les gens ont quand même répondu présent hein, sur Twitter et autres pour cet événement. Il y a eu du plaisir à le regarder. Je vous le dis, les combats One, il y a vraiment des belles cartes. Bon, c'est récemment, les Fight Nights sont pas forcément les plus fous, mais il y a eu de très belles cartes au cours des 5 dernières années de ce que j'ai suivi, du moins. Et puis en thaï, si vous voulez du thaï, le vendredi, il y a des super combats de thaï au Lumpini. One fait ça tous les vendredis maintenant en Muay Thai, et puis ça dépote aussi, c'est génial. Et les cartes multidisciplinaires, par contre, un dernier petit point, moi je les aime beaucoup. Je pense que les gens aiment beaucoup le pied-point avec du MMA aussi, je pense que ça marche bien. Le grappling, c'est seulement, je pense, vraiment les connaisseurs qui sont à fond dedans, parce que j'ai vu beaucoup de gens pester sur Twitter sur les combats de grappling. Je peux comprendre que ce soit pas visuellement ce qu'il y a de plus impressionnant ou plaisant. Moi, j'aime bien regarder de temps en temps, hein. Je suis un gros fan de grappling parce que. Je pratique, j'aime ça, mais parce que j'aime le MMA aussi, j'adore le MMA. Donc, comprendre le grappling, c'est cool. Après, je peux comprendre que ça rebute certaines personnes. De là à le mettre en main card, pas en co-main, entre guillemets, je suis pas sûr que c'est ce que les gens veulent, notamment aux States, mais c'est bien d'en mettre sur la carte. Moi, je réitère, je double signe. C'est bien d'avoir de la multidiscipline. Y compris du grappling, maintenant aussi haut dans la carte, je ne suis pas sûr que sur le long terme ce soit vraiment viable. Mais c'est bien d'avoir de la multidiscipline et merci à vous d'avoir été là cette semaine, d'avoir été là pendant les combats, d'avoir été là avant le combat et d'avoir été là pour écouter cet épisode. Abonnez-vous sur Twitter @guillotine514. Merci tout le monde, on se retrouve très très bientôt. Ciao!
At the end of the day, it is what it is.